Voilà, j'ai lancé. Il y a déjà 16 personnes connectées, donc il a l'air de marcher celui-là. OK? Top! Erev Tov les Koulam! Erev Tov à tout le monde! Il y a eu un petit bug sur le premier lien qui a été envoyé qui ne marche pas. Et donc, j'ai renvoyé un second lien que je viens de créer là maintenant. Et donc, celui-là, il a l'air de marcher. Donc, on va simplement laisser, on va dire, quelques petites secondes pour que les gens puissent se reconnecter au bon lien pour voir s'il marche. En attendant, est-ce que tout le monde m'entend bien? Voilà. On va se poser la question habituelle. Hop là. C'est parti. Yofi. Très bien. Alors, est-ce que l'une des personnes à Paradassa de Midrashet Manitou m'entend? Voilà, tout va bien, c'est bien, on est bon, on est lancé. Alors, j'ai envie de te dire, allons-y! Allons-y, c'est parti. Yofi. Alors, Simona Aseraf a écrit Moon. Moon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça voulait dire Ken. Aziala, alors c'est parti. On est bon, on est bon. Erev Tov, les Koulam. Et on est parti pour notre quatrième épisode de la Neshama de la Mishnah. Eh oui, Nishmat à Mishnah. C'est parti pour notre quatrième épisode. Et aujourd'hui, eh bien, nous prenons un nouveau livre. Si la semaine dernière, nous étions dans Maseret Shabbat, aujourd'hui, on ouvre Maseret Pessahim. Maseret Pessahim, évidemment, qui traite de Pessah, bien sûr. Et la Mishnah qui va nous intéresser ce soir, elle est au chapitre 1, Mishnah 1. Vous l'aurez compris, j'imagine, comme la semaine dernière, on a évoqué, avant de parler des 39 travaux, on a évoqué la première Mishnah de Shabbat, on avait évoqué la première Mishnah de Brachot. Vous avez compris que, effectivement, la première Mishnah, en général, des différentes Mishnayot, eh bien, porte en elle le cœur de la Neshama de cette Mishnah. Donc, c'est pas du tout étonnant qu'à chaque fois, enfin, pas à chaque fois forcément, mais que très souvent, eh bien, nous allons nous concentrer sur la première Mishnah d'une Maseret. Donc, Maseret Tsachim, chapitre 1, Mishnah 1. Voilà. Ceux qui veulent prendre le texte, je vous laisse 2 petites secondes. Et c'est parti. Or, les arba asar botkim et chametz, les oraner. Kol makom she'en machnisim bo chametz, en tsarich bedika. Lama amru shtei shurot bamartef, mekom she'machnisim bo chametz. בית שמאי אומרים שתי שורות על כל המרתף, ובית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות. משנה, on va dire que techniquement parlant, elle est facile à comprendre. Elle est facile à comprendre s'il s'agit effectivement... Ah, attends, on m'a dit attends un peu. J'attends un peu. J'attends un peu. Très bien. J'attends votre ishur, Midrashet Yehuda. Quand vous voulez, vous me dites. Sinon, à part ça, comment ça va? Ça se passe bien? Hein, tout va bien? On se déconfine, les athlètes? Hein, Baruch HaShem? En espérant, évidemment, toujours que bientôt, on pourra enfin se retrouver en chair et en os, et plus seulement par Zoom interposé. Oui, on continuera quand même les diffusions, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui habitent en France, qui habitent ailleurs, qui ne peuvent pas venir. Mais l'étude par Zoom, et je le répète et répète et répète, ne remplacera jamais le limoud panim el panim. Voilà. Donc, voilà. Dites-moi si on veut le. Attends un peu car le nouveau lien. J'entends, j'entends, je suis à votre... À votre disposition, quand vous me faites signe, on commence. Pas de problème. Ça y est? On a le Ishur, on est bon, on peut y aller. Ok. Alors tout le monde a le nouveau lien. Alors c'est parti les amis. Donc je répète, on est aujourd'hui dans la Mishnah, dans Matsechet Pesachim. Pesachim, donc la Mishnah qui suit le traité de Eruvin, qui est en fait le quatrième traité de la Gemara. Et donc... on va maintenant s'occuper du chapitre 1, Mishnah 1. Alors, c'est parti. Comme je disais, cette Mishnah, techniquement, elle n'a rien de compliqué à comprendre. On nous met dans l'ambiance de Pessah, et dans cette ambiance de Pessah, il faut faire Bedi 4 Hametz, et on nous dit « Or le Arba Asar, Botkim et Hametz le Oraner ». On prend une bougie pour vérifier le Hametz le soir du 14. « Kol makom she'en machnissim bo Hametz, en tzaret nika ». Là où tu sais qu'il n'y a pas de Hametz, tu n'as pas besoin d'aller vérifier. Et ensuite, on te dit, Velama Amro, j'te Shurot va Martef. On te parle de ta cave. Et on te dit, Makom, chez Martesim, bo Hametz. On parle d'un endroit où on est susceptible de rentrer du Hametz. Bet Shamay Omrim, j'te Shurot al Kol à Martef. Al Plekol à Martef. Et Bet Ilal Omrim, juste les Chitsonot, c'est-à-dire à Elionot Shebaim. Bon, s'il s'agit d'une Mishnah technique, on a compris. Mais vous l'aurez compris dans notre étude à nous, il ne s'agit pas seulement d'une Mishnah technique. Alors reprenons le texte et essayons de comprendre quelle est la Neshama de la Mishnah. Or, les Arba Asar. Je pense qu'il n'y a qu'un juif pour inventer une terminologie comme ça. C'est-à-dire que c'est quand qu'on doit faire l'abdikat Hametz? Je pense que je ne fais pas un chidouche pour personne en disant que c'est le soir. La veille de Pessah. Ribbono shel olam, c'est le soir. Et toi, t'appelles ça Or. Or le Arba Asar. Dis-moi, Erev Arba Asar. Dis-moi, Leil Arba Asar. Mais pourquoi est-ce que tu m'expliques que tu veux faire ça le soir et t'appelles ça Or? C'est comme ça que la Mishnah, elle commence par un problème de syntaxe. Qu'est-ce que ça veut dire? Or, les Arba Asar. D'ailleurs, la Gemara, juste après cette Mishnah, donc une fois que la Gemara va commencer à rentrer dans le débat, eh bien, elle va poser tout de suite la question. Mazé Or? Mazé Or? Pourquoi tu m'appelles ça Or? Et là, il y a un grand débat qui se met en place dans la Gemara. Un grand débat entre Rav Yehuda et Rav Ouna, Rav Yehuda et Rav Ouna. Quel est le débat? Et de savoir, ce or-là dont il est question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Boker ou est-ce que c'est Erev? Et finalement, la Gemara va me dire, tout le monde est d'accord de dire que c'est Erev. Tout le monde est d'accord que Bdikat Hametz, on fait ça le soir. Donc, retentit la question. D'accord, mais alors pourquoi tu m'as appelé ça or? Et là, la Gemara nous dit, en fait, ça dépend. Ça dépend parce que chez Rav Yehuda, eh bien, on appelait Or l'Arba Asar Leile. Laila. Ça nous va. Laila, c'est bon. Aval, chez Ravuna, on appelait ce moment-là, comment? Nege. 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 Naghe. Comme on dit dans le langage de la Gemara. Naghe. Vas-y, naghe. Eh bien, naghe, ça veut dire boker. Attends. Deux secondes. Tu m'as embrouillé, là. Tu m'as fait de la Gemara. Rav Yehuda, il dit que on appelle le moment où on fait Bedikat Hametz, Laila. Ça paraît logique. Puisqu'on fait ça, Laila. Ravuna, il dit, on appelle ce moment-là naghe. Mais naghe, ça veut dire boker normalement. Alors pourquoi est-ce que, ça veut dire le matin. Mais alors pourquoi à ce moment-là, Ravuna, il appelle ce moment-là Nagé, le matin, c'est la nuit. Et Bichlal, pourquoi la Mishnah a décidé d'appeler ce moment-là Or? Tout le monde est d'accord que ça se passe la nuit. L'un dit que ça se passe la nuit, il appelle ça la nuit. L'autre dit que ça se passe la nuit, mais il appelle ça le matin. Et la Mishnah va l'appeler Or. מה זה הדבר הזה? רבותיי, cette Mishnah, le titre que j'ai donné au cours, c'est « Allumer la lumière ». Cette Mishnah va ouvrir le traité de Psachim. Le traité de Psachim, par excellence, traite de la Géoula. Pessah, c'est le moment de la Géoula. Pachout. Pessah, c'est le moment où on amène la Géoula. C'est la Géoula prototypique. Il y en aura évidemment d'autres des Géoulotes. Et il n'y aura la Géoula que nous vivons actuellement. Mais on doit apprendre de Pessah en tant que prototype de la Géoula, archétype, pour en apprendre pour les autres. Or, ici, la Mishnah nous dit, si tu veux être capable d'entrevoir la Géoula, alors il faut que tu sois capable d'allumer la lumière et faucher Eshrocher. Si toi, tu n'es pas capable de voir la lumière là où il y a du Rocher, la Géoula non plus, tu ne la verras pas. Comment c'est possible cette histoire? Les amis, c'est très simple. Nous dit la Gemara dans le traité de Brachot, de Yoma, dans l'Yerushalmi, que Rabbi Chiya Agadol et Rabbi Shimon ben Chalafta se baladaient tous les deux Bebikat Arbel. Ils se baladaient dans la vallée du Arbel, au-dessus de Tibériade. Et à ce moment-là, Emayou Be'ayelet Ashachar, ils ont vu la Yelet Ashachar, et Rabbi Chiya Agadol, il a dit, Kach hi geulatan shel Israël. Kach hi geulatan shel Israël. C'est comme ça la geoula d'Israël. Mais attendez, de quoi on parle? Mazé Ashachar. Qu'est-ce que ça veut dire en français Ashachar? Mazé. Eh bien, Ashachar, ça veut dire l'aurore. Mais en vérité, Shachar s'appelle Shachar parce qu'elle est Shachor. Parce que c'est quoi l'aurore? C'est le moment où la lumière commence à arriver. Mais au niveau concret, juste avant que l'aurore commence, c'est le moment le plus noir de la nuit. Lama. Eh bien, parce que la lumière objectivement revient, elle éclipse le scintillement des étoiles, mais elle n'a pas encore pointé le bout de son nez. Ce qui fait que tu ne vois plus les étoiles scintiller, mais tu ne vois pas encore la lumière. C'est le moment le plus sombre de la nuit. Si tu as une vision complètement, superficielle des choses, alors tu vas te dire, c'est le moment le plus terrible de la nuit. Alors qu'en vérité, si tu sais regarder, alors tu te rends compte que non, que ce moment-là cache en lui le début de la lumière. Alors oui, c'est caché. Mais si tu es capable de voir, alors cette obscurité-là ne te fait pas peur. Bien au contraire. Elle est pleine d'espoir. Et c'est pour ça que Ayelet HaShachar s'appelle Shachar. Nous dit ici la Mishnah, Or le Arba Asar. Il faut pour que tu comprennes ce qui est en train de se jouer ici, que tu appelles ce soir-là or. Si tu ne comprends pas que c'est or, tu ne comprendras pas Pessah. Et tu ne comprendras pas la Géoula. Donc comprenez-moi bien. Quand quelque chose est du domaine de la lumière, c'est facile de l'appeler lumière. Quand est-ce que ça devient difficile? Ça devient difficile lorsque se mélange l'obscurité et la lumière. Ou alors, pire, lorsqu'il n'y a a priori que de l'obscurité. Le soir de Pessah, on mange des matzot. Ah, mais là-bas, parce qu'on a été libéré. Sauf que le soir de Pessah, on mange aussi du maror. Souvenir de la service de l'esclavage. Mais je ne comprends pas. On aurait dû donc manger le maror la veille de Pessah et le jour de Pessah, manger la matzah. Puisque au moment où on est sorti, on n'est plus esclave. Et là-bas, si on avait fait ça, on aurait pu penser qu'il y a effectivement deux identités. L'identité du dieu esclavagiste et l'identité du dieu libérateur. Un petit peu à la mode de Zarathoustra. Une religion basée sur le dualisme, le bien et le mal. Ah ben, le judaïsme vient nous entraîner. Non. Or, les Arba Asar, on mange le maror avec la matzah, qui gagne dans la shi'aboud, gagne dans l'esclavage, gagne dans la douleur. C'était à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il faut que tu en sois conscient que même dans les moments douloureux, ça préparait, ça cachait, c'est une étape de cette Géoula. Ainsi, on va te dire « Or le Arba Asar », non pas « Leil Arba Asar ». C'est « Or ». Rav Yehuda, il ne veut pas comprendre ça. Ravuna, lui, il veut comprendre cela. Rav Yehuda, il appelle ce moment « Laila ». Ravuna, il appelle ça, on a dit, « Naghe », « Boker », « Lumière ». Rav Yehuda et Ravuna sont opposés sur pas mal de choses. L'un est Rosh Yeshiva de Pumpedita, c'est Rav Yehuda. L'autre est Rosh Yeshiva de Sura, c'est Rav Yehuda. Ravuna, c'est Rav. Il y a de grandes différences à l'époque de Rav Yehuda et Ravuna entre Sura et Pumpedita. Alors qu'à Pumpedita, on est les maîtres du pilpoul, à Sura, on est les maîtres du pshat. Alors qu'à Pumpedita, on a pratiquement que des textes talmudiques de Halakha, pratiquement tous les textes talmudiques de Haggadah viennent de Sura. Alors que Rav Yehuda est fondamentalement opposé au sionisme, tellement qu'il dira que tout celui qui monte de Babylone en Eretz Israël transgresse la Torah, Rav Yehuda va faire monter la yeshiva en Eretz Israël. En d'autres termes, Ravuna, il est capable de voir la lumière même quand il fait sombre. Rav Yehuda, quand il fait sombre, il dit « il fait sombre, attendons qu'il fasse beau ». Ravuna, c'est celui qui est capable d'allumer la lumière. Lorsque la Gemara va continuer en nous expliquant « ok, j'ai compris maintenant que c'était la lumière, mais d'où tu me sors ça ? D'où tu me sors qu'avant même Pessah, yesh or ?» Et la Gemara va donner des arguments, des explications pour nous expliquer comment on peut voir la lumière même quand elle a priori n'est pas visible. Quelles sont les lunettes ultraviolets, infrarouges ? Quels sont les moyens que tu aies de voir cette lumière-là ? Vous savez combien d'arguments va donner la Gemara ? Elle va en donner 14. 14 arguments pour nous expliquer comment est-ce qu'on peut voir la lumière quand elle n'est pas ultra-visible. Et maintenant, vous comprenez ce que la Mishnah nous dit. Or, les Arba Asar. Bien sûr qu'il s'agit du 14 Nissan, mais ce n'est pas ça qu'on parle. Pour avoir le or, pour allumer la lumière à Botay. Sarir Arba Asar. Il faut ces 14 domaines dans lesquels tu vas pouvoir tout simplement dévoiler, allumer la lumière. Alors une fois que tu as compris que c'était ça qui était question, c'était ça qui était en jeu. Or, l'Arba Asar, allumer la lumière. Hachéla, c'est pour faire quoi? Une fois qu'on a allumé la lumière, la question qui se pose à nous, c'est « Ok, on va faire quoi maintenant avec la lumière ?» Maosim, dit ici la Mishnah, « Or le'arba asar, botkim et echametz. » Botkim et echametz ? Ma pitom ! Mais c'est, on n'a pas besoin de l'ifdok et echametz. Qu'est-ce qu'on doit être le bodek ? On doit être bodek, la maison. On doit vérifier la maison pour voir là où il y a du chametz et là où il n'y a pas de chametz. Pourquoi tout d'un coup tu me dis bodek et chametz ? Qu'est-ce qu'il y a à l'ifdok ? Le chametz, qu'est-ce qu'on doit en faire ? On doit le brûler. On doit le faire disparaître. Donc pourquoi la Mishnah me dit or l'arba asar bodkim et chametz ? Tu aurais dû me dire or l'arba asar, bon, on a compris, mais va'arim et chametz. On brûle le chametz. Mais c'est bodkim. L'ifdok, ça veut dire qu'il y a des choses, quand tu es bodek et ta bait, il y a des endroits où il y a du chametz, tu dois les enlever, et il y a des endroits où il n'y a pas de chametz, vous avez seder. Donc si tu me dis bodkim et ta chametz, c'est Omer chez chametz, tu es seder. Mais c'est assez pour ça. Chametz, tu es seder. Quand tu vas ouvrir le or à Géoula, il va falloir que tu fasses très attention de ne pas tout mettre dans le même panier. Hametz, Hamatsa, ce sont deux choses complètement différentes. L'une va à l'essentiel. La matza, c'est l'essentialité de l'être. Hametz, zemashe tofeach. Ça, c'est une explication que tout le monde connaît. Que le hametz, c'est ce qui... De la haine, hametz, c'est ce qui, chez moi, prend de la place. Ce qu'on appelle dans le langage du Talmud également, Hayetzerara. Hayetzerara, qui en fait est la partie de mon être qui dit Ani. Deux petites secondes. Ouya, Atarchav, Yotzel Bevakacha, Atalolokar Nisratim Archav. Bye. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas dans la chambre. Au revoir, monsieur. Bekitsour, ce Yetzerara dont on parle, Tzach Nifdok Oto, et non pas le Va'er Oto. Qu'est-ce que ça veut dire Tzach Nifdok Oto? Est-ce que mon Yetzerara, mon Hametz, il est complètement à jeter à la poubelle? Chas Veshalom. Akadosh Baruch Hu m'a créé Imshte Yetzarim. Yetzer Tov, Yetzer Ara. Ce qui veut dire que j'ai besoin de mes deux Yetzarim. Chas v'shalom, d'être uniquement fait de Yetzer HaTov. Ça, c'est les malachim. Mazozer. Le Yetzer HaTov, on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois. Le Yetzer HaTov, vous savez qu'il rentre dans l'homme, dans la femme, à la bar mitzvah, bat mitzvah. C'est l'âge où le Yetzer HaTov nichnas ba'adam. Makara, 12-13 ans, c'est la puberté. La bar mitzvah à 12-13 ans, c'est parce que c'est la puberté. C'est-à-dire, c'est le moment où l'individu, l'être humain, est capable maintenant de donner la vie. Comme il est capable de donner la vie, il est responsable de cette vie. Ze machenikra yetzer atov, la volonté de donner la vie. Le yetzer hara, c'est donc l'inverse. C'est-à-dire la volonté de recevoir la vie. Cette volonté de recevoir la vie, elle n'est absolument pas mauvaise. Absolument pas. Elle va juste dépendre de ce que je vais en faire. Est-ce que je veux recevoir la vie parce que je ne veux que penser à moi, ou est-ce que je suis conscient que recevoir la vie, c'est une étape pour pouvoir la donner? Expliqué de manière extraordinaire le Rav Ashlag dans un texte qui s'appelle Yesod Anetina. Rav Ashlag explique qu'il y a quatre étapes dans l'évolution de l'homme. Tu dis, je savais que feu Johnny était inspiré de la Gemara. Tu vois, parce qu'il dit allumer le feu. C'est ça le Inyan. Alors, si c'est ça, va pour Johnny. Bekitsour, le Rav Ashlag nous explique qu'il y a quatre étapes dans l'évolution humaine. Des étapes qui s'appellent bébé, enfant, adolescent, adulte. Le bébé, à ce stade de l'évolution, il veut recevoir pour recevoir. Il ne veut que recevoir la vie. Ou kulo yetzerara. Zezebeseder. On n'attend pas d'un bébé qui donne quoi que ce soit. Il veut recevoir. Une fois que le bébé grandit, il passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? Ah, la deuxième étape, shoot! L'enfant. L'enfant, il décide de quoi? Il décide de donner, mais attention, pour recevoir. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il va dire, moi, je suis prêt à faire mes devoirs. Pas de problème. Mais à une condition. C'est qu'après, tu me laisses aller jouer avec mes copains en foot. Je donne, certes, mais pour recevoir. C'est la deuxième étape. Arrive ensuite l'adolescent. Le moment de l'idéalisme, de tous les idéalismes d'ailleurs. Je ne veux que donner. Je suis un idéaliste complètement. Mes parents n'ont rien compris à rien. Crise d'adolescence. La main, parce qu'ils sont devenus pragmatiques. Ils ont oublié les grands idéaux. Moi, je ne fais que donner de ma personne. En l'occurrence, je sais ce que tu penses, papa. Tu penses que j'ai un examen demain. J'ai mon bac. et que donc c'est très important que j'aille dormir. Mais tu te rends pas compte, c'est rien le bac. Là, il y a mon copain qui a le cœur brisé parce que sa copine l'a abandonné. Il faut que je sois avec lui ce soir. Tu comprends pas l'idéal. C'est un adolescent. Arrive l'adulte. L'adulte, il comprend qu'il se doit de recevoir s'il veut pouvoir donner. Si je n'ai rien à donner, je ne peux rien donner. L'adulte est celui qui comprend qu'il faut recevoir pour donner. En d'autres termes, l'adulte est celui qui comprend que le Yetzer Hara, il ne faut pas s'en débarrasser. Bien au contraire, il faut en faire un allié. Il faut l'utiliser à bon escient. Dans le langage de la Kabbalah, on va nous expliquer que il y a des clipotes dans le Yetzer Hara, certaines sont élevables, certaines non, mais c'est de cela qu'on parle. Botkim et Echametz. L'homme va arim et akol. On ne brûle pas tout. On est bodek. Parce qu'il y a des dimensions du Chametz qui sont élevables. Comment ça qu'ils sont élevables? Comment ça qu'ils sont élevables? On doit se débarrasser de tout le Chametz à Pessah. Nachon. Mais tu sais de quoi on ne doit pas se débarrasser à Pessah? De ce qui pourrait être Chametz. C'est-à-dire de tout ce qui pourrait devenir Chametz, mais qui ne l'est pas, on ne doit pas s'en débarrasser. Est-ce que je dois jeter mon blé à Pessah? L'eau. Est-ce que je dois jeter ma farine de blé à Pessah? L'eau. Farine de blé, pas Chametz. Évidemment, pas cachère de Pessah, mais pas Chametz. Le blé lui-même, pas cachère le Pessah, mais pas Chametz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu prends le Yetzer Hara et que tu le prends dans sa façon, on va dire, déjà transformée, déjà raffinée, alors il n'y a rien à en tirer. Ça, il faut le brûler. Aval, va regarder l'origine. L'origine de ce qui t'a fait fauter avec ton Yetzer Hara, cette origine-là, il y a quelque chose à en sortir. Cette origine-là est mechouberet à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslav dans l'Écoutez-moi Aran, dans la Torah 182, dans la Torah Resh Pebet, nous dit Rabbi Nachman la chose suivante. Que lorsque quelqu'un il veut faire teshuva, hein, il doit aller regarder dans toutes les actions qu'il a pu faire, velechapes davar meat tov. Aller chercher la nekuda de bien qu'il y a même dans sa avera. Parce qu'il est impossible que dans sa avera, il n'y ait pas une nekuda tova. C'est une avera, faut pas la faire. Mais il y a forcément une nekuda tova qui l'a poussé à faire ça. Il va falloir aller chercher cette nekuda tova et la sortir du reste de l'avera pour qu'elle devienne Nekuda Tova Mamash. Or les Arba Asar, parce que je suis capable d'allumer la lumière, parce que j'ai une tfissa de la Geoula, où lorsqu'il fait sombre, je suis tout à fait conscient que ce n'est qu'un pas vers la lumière, que je suis tout à fait conscient qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné des forces qui peuvent me faire tomber, mais qui peuvent également m'élever encore plus. Donc, un ibodek est un chametz, le orané. Aha, c'est ce que je viens de le dire comme ça, vite fait. Botkim est un chametz, aval l'ostam, le orané. Vous rendez compte que l'ibdok est un chametz, ça veut dire aller vérifier dans chaque élément de ma maison, partout. C'est-à-dire, je vérifie tous les domaines de ma vie. Parce que ma maison, c'est moi. Vous savez, on peut apprendre beaucoup de choses sur une personne rien qu'en rentrant chez lui. Il n'est même pas là. Mais tu es rentré dans sa maison, tu as appris déjà beaucoup sur lui. Botkim et Achametz, aval Ech. Comment on va faire? On a dit, celui qui est capable d'allumer la lumière, alors à quoi ça sert de pouvoir allumer la lumière, de savoir qu'il faut l'allumer? Ça sert à pouvoir l'ivdok et Achametz, c'est-à-dire prendre la chose à son origine et en découvrir la Nekuda Tova. Je prends un exemple. Les Bnei Israël étaient en Égypte. En Égypte, il y avait énormément de richesses, de trésors, avec lesquels les Égyptiens faisaient Avodazara, Tum'ata, Tum'ot, tout ce que tu veux. Cet or-là de l'Égypte, on l'a pris avec nous. Et qu'est-ce qu'on en a fait ? Batkou. On a fait un peu de Vaudor et un peu de Kélim du Mishkan. Les Kélim du Mishkan, les ustensiles du Mishkan, parfait, c'est Tseratov. Ah, Preteg, c'est Tserara. Ah ouais, mais alors à ce moment-là, est-ce que tout est à jeter ? Ben non. Qu'est-ce qu'il va faire, Moshe ? Il ne va pas tout jeter. Il va tout détruire, il va réduire tout ça en poussière, et ensuite, de cette poussière, il va faire boire les Bnei Israël. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que quand tu as réduit ce gargir, ce point de Tserara à son élément le plus primaire, alors il peut te servir et te faire évoluer dans le bon sens. Or l'arba asar botkim et achametz. Pour voir ce que je peux intégrer et ce que je ne peux plus intégrer. Donc si je suis capable d'allumer la lumière, je suis capable de l'ivdok et achametz. Mais attention, comment je suis bodek et achametz ? Comment je vérifie ça ? Les or. Aner. Mazé or aner, Abodai. Or aner, ze ner Hashem nishmat Adam. Or aner, c'est être capable d'arriver à conjuguer le ner avec le or. Dit le Rav Kook. Et dans Roth, qu'est-ce que c'est la conjugaison de or et ner ? Ner, nous dit le Rav Kook, rachetez votre nefesh verroir. Ce sont les deux parties basses de l'âme juive. Nefesh verroir. Nous dit le Rav Kook, il y a des gens qui sont avec une prédisposition de Nefesh, qui sont les spécialistes du Nefesh, et d'autres qui sont les spécialistes du Ruach. Rav Kook explique que les spécialistes du Nefesh, ce sont les Khaloutsim, ces sionistes laïcs qui construisent le pays. C'est les spécialistes du Nefesh. Ils ne sont pas bons en Ruach. Avodat Hashem, Torah, ils ne sont pas bons en Ruach. D'un autre côté, il y en a d'autres qui sont très très bons en Ruach. Shomre Torah au Mitzvot. On va appeler ça les Haredim de l'époque. Dieu a fou qu'ils ne sont pas bons du tout en Nefesh. Ils ne construisent pas l'identité nationale de la terre d'Israël. Lorsqu'ils restent séparés, Zelo Oved, ça ne peut pas marcher. Donc lorsqu'ils sont séparés, Zebonetchelo, Zebonetchelo, et ça ne marche pas. Il faut donc les conjuguer. Pour ça, il faut rajouter la troisième dimension qui s'appelle Neshama. Veze à or. Arba, or le arba asar. Botkim et achametz, le or aner. Une fois que j'ai utilisé toutes ces forces-là, que j'ai compris que l'idéal de Pessah était d'allumer la lumière, à savoir d'être capable de dévoiler, même lorsque ce n'est pas encore totalement le soleil, d'être capable de voir quand la Géoula, elle vient. Même quand au début, ça ne sent pas bon. Lorsque j'ai compris cela, alors Ani Bodek et Achametz, je prends toutes les dimensions qui pourraient m'amener dans le mal et je vérifie. Ce que je dois de détruire et jeter, je jette. Et ce que je peux intégrer, j'intègre. Et pour ce faire, j'utilise le or aner. J'utilise les forces de ma neshama. C'est-à-dire, j'utilise les forces de mon identité la plus profonde. Une fois qu'on a dit cela, la Mishnah te dit, ah ben attention, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. Il y a des endroits dans l'identité humaine où אני לא מכניס חמץ. זה ביצר הטוב, זה במצוות ובמעשים טובים. מצוות ומעשים טובים, אין שם חמץ. לא צריך בדיקה. Je suis pas obligé d'aller vérifier mes mitzvot, est-ce que je les ai bien faites. Si déjà j'ai fait une mitzvah, j'ai fait une mitzvah. Lo tzarich. Je peux toujours m'améliorer, mais je dois pas aller être bodek. Il n'y a pas quelque chose de négatif dans ma mitzvah. Donc, kol makom she'en machnisim bo chametz, en tzarich bedika. Lo tzarich. Ki ze baruch sheze beseder. Aval, les endroits où il y a oui du chametz, je dois y aller. La Gemara continue sur cette Mishnah, elle dit ok, il y a des endroits où on n'a pas besoin de chametz, on n'a pas besoin de vérifier, machin. Aval Shnia, deux secondes. Il y a des maisons où oui, il faut aller vérifier partout. Même dans les endroits où a priori il n'y a pas de chametz. C'est quoi ces maisons-là? Me dit directement la Gemara, c'est quoi ces endroits-là? C'est les maisons où il y a des tinocotes et des tarnégolotes. C'est là où il y a des poules qui se baladent dans la maison et là où il y a des petits enfants, à tabodek v'chol makom. Mais c'est pour ça. C'est pour pas shoot. Encore une fois, au niveau du pchat, c'est très clair. Quand tu as un petit enfant qui se balade avec sa gaufrette et qui se balade dans toute la maison et que tu finalement la retrouves l'année d'après, dans le tiroir des chaussettes, parce qu'il était sûr que là personne viendrait lui prendre, t'as compris qu'il fallait vérifier. Et t'as les golottes, ils mangent partout, elles font pas attention, les poules, elles mettent des graines partout. Ça, mazomé. Atinok. Atinok, c'est celui qui est coulo yetzerara, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et faut chez Tinok babait, tu dois quand même aller vérifier partout. Si tu te comportes kulo yetzerara, tu dois vérifier partout dans ton identité. Tu ne peux pas être un tinoc. Et une tarnégole, tarnégole, bah, c'est le coq sportif. Au taille, tarnégole, c'est à osher. La poule, à l'époque de la Mishnah, c'est le symbole de l'abondance. L'abondance. Vous saviez qu'à l'époque, quand on se mariait, on faisait rentrer avant le Khatan et la Kala un coq et une poule pour que de la même façon qu'eux, ils vont faire des bébés tous les jours, eh bien, le Khatan et la Kala aussi, ils aient l'abondance et ils aient des bébés, ce que tu veux. En autre terme, le coq, la poule, c'est le symbole de l'abondance. Quand tu vis une vie où tu n'es que dans l'abondance matérielle, ça cliff dog bechol makom. Donc, on a cette bédika qui doit se faire que dans les endroits où tu as du chametz. Dans les endroits où tu sais qu'il n'y a pas de chametz, donc faire bédika. Mais quand tu mènes une vie qui est cool en chametz, alors faire bédika bechol makom. Ok, ça c'est bon. Et là, la Mishnah continue et nous dit « Velama amrush teshurot bamartef » Et pourquoi on a dit qu'il fallait vérifier deux lignes dans la cave? L'eau. L'eau amrou. Mastomède, c'est la première Mishnah. Mastomède, lama amrou. Alors, dans les commentateurs, le Rambam, Tosotem Tov, Portenoura, ils vont dire, non, il y avait une Mishnah Douma. C'est-à-dire, il y avait un enseignement Kadoum qui n'a pas été mis dans la Mishnah textuellement, qu'il fallait vérifier le Martef. Chnia. Mazé, yesh Mishnah Kdouma, yesh Martef. On parle de l'Égypte et on parle de la sortie de l'Égypte. Qui a été jeté dans le Martef? Qui a été jeté dans le bord, dans le puits? Qui a été jeté là-bas? C'est celui qui a imaginé que même dans les tréfonds de la galoute, il pouvait également utiliser l'Égypte. Bah Martef! Yosef Bakele. Yosef Bakele pense qu'il peut là-bas aussi utiliser certaines dimensions de l'Égypte. Omrimlo. Ouais, mais attends deux secondes. Yosef, deux secondes. Bamartef, צריך לבדוק שתי שורות של חביות. מקום שמכניסים בו חמץ, כמובן. זה on parle d'un מרתף, ו-justement, il s'agit de l'endroit où il y a du חמץ, c'est-à-dire il y a du etc. On ne parle pas d'un מרתף de tzadiké olam. Donc là-bas, hein, il va falloir que tu vérifies. Comme on a dit, il faut vérifier partout, bah là-bas, il va falloir vérifier aussi. Mais attention, שתי שורות. איזה שורות? בית שמאי, ils viennent et ils disent, tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut vérifier? Eh, il n'y a pas de problème, je vais te dire. בית שמאי אומרים, שתי שורות על פני כל המרתף. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses le tour de tout le מרתף. Et que tu vérifies partout. Mastomer est partout, dans les quatre côtés. Le מרתף, c'est une salle, on mettait des tonneaux de vin. Ok, ah, techniquement parlant, c'est parce qu'on y mettait des tonneaux de vin et que le mec, il n'a pas l'habitude, enfin, il a l'habitude de descendre là-bas avec son manger, sa pita, et il va laisser. On mettait des barriques de vin tout le long des murs, et ensuite deuxième rangée, l'un sur l'autre. Et ensuite, on remplissait de l'intérieur également. Donc, Beit Shammai, il te dit, tu dois vérifier. Kol al pene amartef. C'est-à-dire les chaviot, le vin, qui est tout autour. Aval ma zeh yain. Nichnas yain, yatsa sod. Il y a un secret ici qui est en train d'être dévoilé. C'est que tu dévoiles la lumière qui est dans l'obscurité. Il n'y a pas de plus grand secret que celui-là. Beit Shammai, il te dit, Nachon, mais pour pouvoir dévoiler ce secret quand tu es bamartef, bagalout, il faut que tu fasses le tour de tout le martef. C'est-à-dire que pour arriver au dévoilement de ce secret-là et à être capable de dévoiler le bien qu'il y a dans les terraras de la galoute, il faut d'abord que tu aies fait le tour de tout. C'est-à-dire quoi, il faut que tu aies fait le tour de tout? C'est-à-dire que tu ne peux pas te satisfaire de ce que tu vois. Il faut que tu ailles également de l'autre côté. C'est kol ashurot shalpenei amartef. Bethilel, ils te disent non. Bethilel, ils te disent non, bagalout, bamartef, shtei shurot achitsonot, shehem haelyonot. Bagalout, tu peux te simplifier la vie. Tu peux simplement aller vérifier les shurot chitsonot. Lama? Parce que l'intériorité de la galout, tu n'as pas besoin d'aller la vérifier, elle est fondamentalement pas pour toi. A galout, Zelo amakom shelcha. La reine, c'est pas la peine que là-bas, tu ailles vérifier les tréfonds de ton âme, les tréfonds de la galoute. L'otsarich. Bagaloute, tu peux te contenter que d'aller vérifier les shurot ritsonot. C'est-à-dire ce que tu vois. Je ne vais pas commencer à aller vérifier en France les tréfonds de l'âme française pour y allumer la lumière. Je vais prendre ce que je vois et je vais allumer la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben concrètement, ça veut dire que vous connaissez un truc qui s'appelle les caricatures, les stéréotypes. Oh, faut pas généraliser. Ben si, bien sûr qu'il faut généraliser. Bien sûr qu'il faut généraliser. Parce que ce n'est que dans le général que tu peux dévoiler une mégama. Beit Shammai, il te dit, tu vas aller vérifier chacun. Partout. Bethilel lui dit, mais t'as raison, si tu veux avoir une vision tellement profonde et entière. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut juste allumer la lumière. Pour allumer la lumière, il faut que je sache quelle est, de manière générale, l'ambiance de cette identité-là. Et après, je saurai comment lui allumer la lumière. Alors oui, Beit Shammai, comme à son habitude, il est plus vrai. Et Bethilel, comme à son habitude, il est plus concret. Shamay ou Shamaim. Hillel, il est celui qui va avoir une seule raison d'être, à savoir comment je fais en sorte que même celui qui se sent loin, Anikorelo, béni. La fameuse histoire de ce juif qui est venu voir Hillel, qui a dit Mikan Hillel, trois fois pour l'embêter. À chaque fois, il lui a posé une question débile. Et Hillel lui a dit, She'ela gedola sha'alta beni. Beit Hillel, son rôle, c'est pas d'aller rentrer au plus profond. Beit Hillel, son rôle, c'est de venir prendre la globalité du personnage et de venir nous dire Ma efchar la'atzil. Quand ce goy il est venu voir Shammai qui lui a dit apprends-moi la Torah al regel achat, Shammai il a dégagé parce que Zelo amok. Et là, il lui a dit Tov natrilim mashu chitzoni. C'est ce que nous dit ici Beit Hillel. Ashurot achitzonot. Ça, tu dois aller les vérifier. Rabotai, cette Mishnah vient nous expliquer comment est-ce qu'on allume la lumière. Tout l'idéal de Pessah et de la Géoula, c'est d'allumer la lumière pour le monde, pas que pour nous. Comment tu fais? Tu as Arba, Asar, Ta'anot. Tu as 14 explications pour t'expliquer que même lorsque c'est l'obscurité, tu dois être capable d'y voir la lumière. Une fois que tu as compris ça, alors tu peux sortir du Hametz Mashutov. À tel point qu'à Shavuot, tu emmèneras tout simplement des Lechamim de Hametz. Parce que tu auras réussi à prendre tout ce qu'il y avait à prendre de bien. Pour ça, il faut que tu utilises Oraner, l'union entre le Nefesh, la construction physique, Ruach, la construction toranique, avec la lumière de la Neshama. À ce moment-là, tu comprends que ça ne peut pas se faire que chez toi. Mais il faut que tu ailles faire ça également chez les autres. Bamartef, Bagalout. Et là-bas, Bagalout, Bamartef, fais attention. Si c'est un endroit où il n'y a pas de Hametz, n'y va pas. Mais si c'est un endroit où il y a aussi du Hametz, alors où est-ce que tu vas vérifier? De manière idéale, partout. Mais de manière concrète, dans ce que tu vois. Parce que tu vas pouvoir généraliser et prendre de la manière collective ce que représentent ces identités du Martef. Pour que là-bas, tu puisses en sortir le Yain, le Sod, le secret de Chag HaPessah. Voilà à quoi fait référence au niveau de sa Neshama, la Mishnah numéro 1 du chapitre 1 du traité de Psachim. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Neshama de la Mishnah. À bientôt les amis.